Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie, qui sera continué avec l'histoire aujourd'hui et la mise au point. L'heure suivante, comme tous les jours, nous allons vous présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter la rubrique courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie. Voici le journal d'aujourd'hui. En 50 ans, l'ASEAN jouait de la paix, la prospérité et la sécurité régionale. Le vice-président Youssouf Kalla encourage la technologie de la production du sel du BPPT d'impliquer le secteur privé. Les experts de pédiatrie tropicale de 19 pays assistent au 11e congrès international de pédiatrie tropicale à Yogyakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec les quatre pays à Manille. Chers auditeurs et auditrices, voici le journal complet. Samedi le 5 août, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN a été ouverte par le ministre des Affaires étrangères de Philippines, Alan Peter Cayetano, à Philippines International Convention Centre, Manille, les Philippines. Il a dit dans son discours qu'à l'âge d'un demi-siècle, maintenant les pays membres de l'ASEAN continuent de jouir de la prospérité, la paix et la sécurité dans la région. La tolérance qui a été maintenue par des personnes dans 10 pays d'Asie du Sud-Est est considérée comme une clé de la stabilité dans la région de l'ASEAN. Avec une population de 600 millions de personnes, l'ASEAN peut contribuer au produit intérieur brut ou PIB à 2,4 trillions de dollars américains.
We now enjoy peace, security and stability in the region. More importantly,
nous pouvons maintenant jouir de la paix, de la sécurité et la stabilité dans la région. Le plus important est les valeurs de l'ASEAN que nous avons développées. Les mêmes valeurs qui font l'ASEAN peuvent avancer ensemble avec les pays voisins dans la paix et l'harmonie. Bien que quelquefois il y ait des problèmes et des choses qui sont complexes et sensibles parmi nous, nous avons trouvé un moyen de vivre en paix et créer la paix et la stabilité dans notre région. Dans l'ouverture de cet événement, a été également assisté par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, qui sera à Manille jusqu'à la célébration du 50e anniversaire de l'ASEAN, le 8 août. Diverses réunions sont utilisées par l'Indonésie pour encourager 9 autres membres pour renforcer l'engagement dans la lutte contre le terrorisme, réprimer la criminalité transnationale et arrêter le trafic des drogues. Le vice-président Youssouf Kalla a déclaré que le gouvernement encourageait l'augmentation de la production du sel à l'aide de la technologie de l'Agence pour l'évaluation et l'application des technologies, BPPT, impliquant le secteur privé, à savoir les entrepreneurs du sel, n'utilisent pas de budget de l'État. Cela a été dit par le vice-président aux journalistes à Jakarta, samedi le 5 août 2017. Cela lié à la réunion avec le président, je voulais dire le vice-président Youssouf Kalla, le ministre coordinateur des affaires maritimes Luhut Binsar Panjaitan et le chef du BPPT, Unggul Prianto, récemment à Jakarta sur l'utilisation de la technologie de production du sel liée à la rareté de la production du sel en raison des mauvaises récoltes. Selon le chef du BPPT, Unggul Prianto, la technologie de production de sel du BPPT peut réduire le temps de production dans les 4 jours des 12 jours qui ont fait conventionnellement par les producteurs de sel. BPPT a besoin d'environ 4-5 hectares de terre pour commencer, sur 15 hectares avec l'objectif de production de 500 000 tonnes de sel. Ensuite, environ 500 participants composés d'experts sur la santé des enfants dans 19 pays, principalement la région tropicale. Samedi, les 5-8 ont assisté au 11e congrès international d'experts des maladies tropicales chez les enfants, qui dure de 4 jours à Yogyakarta. L'ancien président du congrès international de pédiatrie tropicale, le professeur Lulu Brafo des Philippines, indique que les experts pédiatriques tropicaux ont réuni à Yogyakarta pour discuter de la question des maladies qui pourraient être prévenues ou guéries. Pendant ce temps, le président de l'association indonésienne des pédiatres, le médecin Aman Bhakti Pulungan, a déclaré que diverses maladies qui ont discuté au congrès international sont en accord avec le but des objectifs de développement social.
Dari poin SDG itu ada tiga yang paling penting untuk penyakit infeksi. Untuk TBC ini dibahas banyak di sini.
Concernant les points des objectifs de développement durable, il y a trois choses les plus importantes pour les maladies infectieuses. On discute beaucoup de la tuberculose de rang 45. Maintenant, nous sommes au deuxième rang. Le paludisme est une maladie qui déjà existe et la dengue, les gens apprennent à nu. Surtout pour MR, rugueole et la rubéole, nous ciblerons en 2020, la maladie n'existe plus. Le président du comité du congrès, le professeur Sri Rezeki Hadinegoro, a dit que les maladies qui ont été discutées sont entre autres la diarrhée et la pneumonie. Les maladies qui deviennent les problèmes de santé des enfants en Indonésie. On discute de la maladie et aussi la cause et le vaccin. Le professeur Mortad El-Shabraoui de l'Égypte a rappelé que les maladies tropicales sont également en croissance dans les pays qui ne sont pas les tropiques, ce qui est dû aux nombreux migrants et touristes qui ont propagé la maladie. Le congrès sera également discuté spécifiquement au sujet de la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Et puis, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec 4 ministres des Affaires étrangères de l'Australie, du Sri Lanka, du Vietnam et de la Corée. Je voulais dire de la Corée du Sud, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Manille, les Philippines, le samedi, le 5 août. Des engagements et plans de coopération dans l'avenir deviennent le sujet de discussion à la réunion. Dans la réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, l'Indonésie a demandé pour que le Vietnam puisse être flexible lié aux frontières maritimes. Selon la ministre, l'Indonésie continuera à négocier des limites en ce qui concerne les eaux territoriales liées à la zone économique exclusive des deux pays. Lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, l'Indonésie a apprécié le soutien du Sri Lanka sur la nomination indonésienne d'être le membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2019 à 2020. Le Sri Lanka a également invité le président Joko Widodo à visiter.
Menjadi satu keharusan bagi kita untuk menyelesaikan batas maritim.
Il devient impératif pour nous de résoudre la question de nos frontières maritimes. Quel dommage que cette bonne relation est colorée avec des incidents liés aux bateaux de pêche vietnamiens dans nos eaux. Encore une fois, le gouvernement du Sri Lanka a exprimé son appréciation au gouvernement indonésien d'envoyer du riz à la demande du Sri Lanka en période de sécheresse. Lors d'une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, l'Indonésie a participé à discuter de la situation de la péninsule coréenne et les différents efforts qui ont été offerts à la Corée du Nord. Mais il n'y a pas encore d'une réponse. L'Indonésie et l'Australie sont d'accord pour continuer la réunion en Manado, sous la Bessie du Nord, dans la lutte contre le terrorisme. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore avec moi, Wimanata Kusuma, dans la rubrique La Nouvelle de l'Indonésie, qui vous présente des diverses informations intéressantes hebdomadaires à travers de l'Indonésie. La première nouvelle vient de Bandung, Java Ouest. Le maire de Bandung, Ridwan Kamil, a officiellement présenté la plateforme de planification de Bandung qui s'appelle la Galerie de planification de Bandung, au nord de la mairie, à Rue Atteh, mardi le 1er août 2017. Ce projet était prévu pour commencer en 2015, mais en raison de divers constraints, le projet a terminé cette année à un coût d'environ 9 milliards de rupias. Ridwan Kamil a dit que cette galerie peut être un moyen de média pour les gens d'exprimer leurs aspirations pour la planification de grands projets à Bandung. Cette galerie devient le symbole d'un gouvernement qui apprécie l'opinion de son peuple. La nouvelle suivante vient de Kupang, Nusa Tenggara Timur. Un total de 14 bateaux qui partent de Darwin, l'Australie, le 29 juillet 2017 sont arrivés à Kupang Teddy's Beach pour participer à Sail Indonesia 2017. Ils sont prêts à faire un tour pour visiter un certain nombre d'attractions touristiques à Nusa Tenggara. Le chef de développement du destination touristique du département de la tourisme de Nusa Tenggara Timur, Benny Wahon, mercredi dernier a dit que les participants de Sail Indonesia 2017 qui sont arrivés à Kupang proviennent d'un certain nombre de pays comme l'Australie, la Bulgarie, la Pologne et les États-Unis. Après être arrivés à Kupang, pendant environ une semaine, les participants se seront rendus à diverses destinations dans cette province, avant de se rassembler à Labuan Bajo, Manggarai West, à l'île Flores. Benny a dit que les participants resteront dans la province pendant un mois, avant de se réunir à Labuan Bajo à la fin d'août 2017, pour poursuivre le voyage vers les autres régions en Indonésie. Chers auditeurs et auditrices, voilà la nouvelle de l'Indonésie, de la voix de l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs d'ITIS, on écoute maintenant l'histoire d'aujourd'hui ce soir, le 6 août. On va commencer le 6 août 1945, une bombe atomique sur Hiroshima. Les bombes atomiques sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945 étaient menées par les alliés qui visaient à faire taire l'armée impériale japonaise qui était connue pour être très héroïque, inébranlable et fidèle à l'empereur. Le 6 août 1945, les États-Unis ont envoyé deux avions de type B-29 qui ont apporté la bombe atomique nommée Little Boy du siège américain aux Philippines. L'avion nommé Enola Gay est le porteur de bombes nucléaires avec une masse de 55 tonnes. À 9 heures, une bombe atomique était largée sur la ville d'Hiroshima. Trois jours plus tard, le 9 août 1945, Enola Gay a largué une bombe nommée Fat Man dans la ville de Nagasaki. La ville a été détruite par une bombe d'une masse de 105 tonnes. Les événements ont tué environ 220 000 personnes et des milliers de personnes ont souffert de rayonnement. En charge le 18 1960, le secrétaire général de l'ONU a publié un règlement permettant aux troupes de l'ONU d'entrer au Congo. Le Congo a obtenu son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. Malheureusement, il a eu encore le conflit à Katanga qui a fait la crise du Congo seulement 3 semaines après Patrice Lumumba devenu le premier ministre. La crise marquée par la lutte de pouvoir Joseph Kasavubu, Moïse Tshombe et Joseph Mobutu Sese Seko pour surmonter la crise, Patrice Lumumba a demandé l'intervention de l'ONU. Le 6 août 1960, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, Dag Hammarskjöld, a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de publier une règle qui permettra aux troupes de l'ONU d'entrer à Katanga sans interférer dans les affaires intérieures du Congo. La directive de Hammarskjöld a été suivie par l'adoption de la résolution 143 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a saisi le retrait des forces belges et appelé le soutien militaire de l'ONU à l'armée congolaise. Le lendemain, la résolution a été faite et les troupes de l'ONU sont arrivées au Congo. On termine le 6 août 1997, le vol 801 appartenant à la compagnie aérienne Korean Air s'est écrasé à Guam. Il était en vol entre Seoul en Corée du Sud et l'île de Guam. Il s'est écrasé lors de la procédure d'approche. Il s'est écrasé sous Nimitz Hills, environ 5 km avant d'atterrissage prévu sur la piste CL de l'aéroport international Antonio B. Warren Park de Guam, faisant un total de 228 morts sur les 250 personnes au bord. Ces auditeurs, c'était notre histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition de 6 août. À demain.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonjour à tous, on se rencontre encore avec moi, Wimana Takusuma, dans l'émission de la mise au point de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont le titre est « La gestion durable des forêts pour stimuler l'économie nationale ».
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Le président Joko Widodo a dit que la gestion des forêts en Indonésie est encore monotone et manque d'innovation. Il a demandé au ministère de l'Environnement et des Forêts pour de ne pas hésiter à imiter la Finlande et la Suède dans le programme de la gestion des forêts. Cela a été dit dans le discours du président Joko Widodo pendant la célébration de la Journée nationale d'environnement 2017 où Hari Lingkungan Hidup 2017 au bâtiment Mangala Wana Bakti mercredi le 10 août. La gestion des forêts, a déclaré le président, devrait continuer à stimuler l'économie nationale et les communautés qui habitent autour de la forêt. Le président a également encouragé l'application des techniques d'agroforesterie, telles que le développement forestier en parallèle durable. Il a souligné qu'au futur, la gestion qui s'orientait aux projets d'entreprise ne devrait plus exister. Il est préoccupé par le niveau élevé de la pauvreté des communautés forestières. Le président souhaite améliorer le bien-être des communautés qui habitent autour des forêts. Il a affirmé qu'il continuerait à superviser si l'instruction se ferait correctement ou non. Le président a également repris les dossiers des parties qui ont perturbé le processus de gestion des forêts ou des parties qui se sont orientées vers le projet d'entreprise. Le président Joko Widodo nous a également averti sur la protection des parcs nationaux. Dans la même occasion, le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a déclaré que les efforts de réforme de la gestion étaient en cours de continuer. Ce long processus est requis à cause d'une variété de la destruction des forêts et des pratiques environnementales qui se sont produites depuis les dernières décennies. Siti Nurbaya continue en disant que toutes les parties intervenantes ont participé à la réunion de travail national dans la Journée nationale d'environnement 2017 pour chercher des solutions qui concernent la problématique des forêts nationales. Selon Citi, les faiblesses des gestions forestières résident dans la réglementation économique de la loi, comme les différences dans les règles régissant les forêts des plantations, avec une sorte de plantation comme des palmiers à l'huile, même si en fait, toutes les deux industries viennent des forêts. Chers auditeurs et auditrices, voilà la mise au point de la semaine.
Écoutez, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices, nous vous revenons encore dans la rubrique Magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager au Sulawesi du Sud pour voir une tradition unique. Donc, restez toujours avec nous à RRI Service International, la voix de l'Indonésie. Outre parenthèses courtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id. La majorité des Indonésiens vit en tant qu'agriculteurs. Et en tant qu'agriculteurs, bien sûr, ils espèrent que leurs produits agricoles sont toujours abondants. Pour les récoltes abondantes, il y a de nombreuses traditions menées par le peuple indonésien. L'une d'eux est effectuée par des personnes dans le village de Kandeapi, au district Tikala Rantepao, la région de Toraja du Nord. Au Sulawesi du Sud. Il tient la tradition du coup de pied lors de la fête de la moisson. Cette tradition n'est pas un combat banal. Ils attaquent leurs opposants en utilisant seulement les coups de pied. La tradition du coup de pied, ou est également connue sous le nom original de la tradition, Sisemba, est une tradition typique de la communauté du village de Kandeapi qui a duré depuis longtemps. Cette tradition n'est pas un jeu violent, mais une nécessité pour le peuple local d'avoir des récoltes abondantes dans les années à venir. Parce que si elle ne met pas en œuvre la tradition Sisemba, on croit qu'elle conduira à l'échec des récoltes. Chaque année, les résidents de Kandeapi tiennent une tradition de fête de la moisson en apportant une grande variété d'aliments traditionnels tels que le riz bambou ou peon. À partir de la procession de fête de la moisson, le chef traditionnel local donne d'abord des conseils ou maparapa qui contient des messages des ancêtres des règles de l'agriculture. Cette règle est toujours embrassée par la communauté locale jusqu'à présent. Après cela, les gens qui viennent à la place de la fête de la récolte vont profiter de la danse Magalu, réalisée par les jeunes filles. Cette danse signifie comme une expression de gratitude à Dieu pour la récolte abondante. Dans cette danse, les citoyens qui se sentent consolés donneront de l'argent comme en signe de joie et gratitude. Pendant ce temps, d'autres résidents détenaient la tradition Malambu Ol ou le battre du riz. Dans cette tradition, les hommes ont frappé un mortier avec un rythme élevé, suivi par la danse et le mouvement rassemblent le cri typique de Toraja. Les habitants croient que le rythme de mortier battu peut repousser les ravageurs du riz. Le plus élevé, le rythme des battements, les plus nuisibles qui se sont expulsés. Après la tradition du Batreduri, la tradition du coup de pied ou sisemba aura lieu. Ce combat se fait habituellement par des garçons ou des hommes adolescents. Le jeu du sisemba a plusieurs variations. Tout d'abord, l'un sur un. Pour cette variation, on implique deux participants qui feront face à l'autre. Deuxièmement, le jeu en paire. Dans cette variante, il y aura deux équipes qui s'affronteront. Chaque équipe est représentée par deux participants qui devraient se tenir la main. Une équipe qui perd la main de son partenaire tout en jouant dans des paires sera déclarée perdue. Si les participants sont tombés, alors l'adversaire n'est plus autorisé à attaquer. Ce n'est pas étonnant que tant de personnes subiront des blessures comme des entorses à une plaie ouverte sur le cul lourd de leurs adversaires. Cependant, s'il y a des participants qui sont déjà considérés comme trop grossiers, le chef traditionnel va immédiatement leur séparer. Bien qu'il semble comme rugueux et dur, mais les gens qui amorcent l'autre dans le cul ne portent pas de rancune en quittant l'arène. Chers auditeurs et auditrices, voilà cette édition du magazine culturel dont le sujet est le coup de pied. On vous retrouve encore demain avec d'autres sujets aussi intéressants. Sampai jumpa.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, voici la rubrique L'Indonésien couleur. Cette fois, nous vous présentons 5 boulangeries légendaires en Indonésie. Beaucoup de gens disent que le petit déjeuner avec du pain n'est pas l'habitude des gens d'Indonésie. Seulement les Occidentaux qui prennent le petit déjeuner avec du pain. Mais cette opinion n'est pas tout à fait vraie. Car il existe une variété de boulangeries étant fondée il y a quelques décennies en Indonésie. Concernant cette question, cette fois, nous allons introduire 5 boulangeries légendaires en Indonésie. La première boulangerie légendaire existe dans la ville de Solo, dont le nom est Roti Mandari Orion. Elle a été fondée dans les années 1930 et située à Jalan Urip Sumoharjo, Surakarta, Jawa Central. Le produit principal de cette boulangerie est Roti Mandarin, qui est devenu l'un des souvenirs typiques du Solo. Sa forme comme le lapis Surabaya. Ce pain n'utilise pas des conservateurs et les donc sans danger pour être consommé. Il y a une boulangerie avec une sensation nostalgique dans les années 1930 dans la ville de Semarang. Son nom est Toko Oen. L'ambiance classique de la boulangerie est maintenue jusqu'à présent. Les acheteurs peuvent acheter du pain traditionnel de Semarang qui est maintenant tout à fait tout à fait rare. C'est le pain de Ganjel Real. Si vous voulez goûter ce pain, vous pouvez visiter Tokoen, qui est situé à Rue Pemuda, Semarang. La boulangerie légendaire suivante est située à Jalan Sudirman, à la ville de Bogor. Son nom est Toko Bogor Permai, qui est situé près de Taman Kencana, qui existe depuis 1963. Il est encore célèbre jusqu'à présent pour son pain et des gâteaux traditionnels. Bien que les décors de la boulangerie soient déjà modernes, les visiteurs peuvent encore voir une variété de pains qui peut être rarement rencontrée dans d'autres boulangeries, comme par exemple le pain de Tapal Kuda, le pain Keset et le pain de Gambang. Les prix du pain et des gâteaux ne sont pas chers, environ de 2000 rupiahs à 20 000 rupiahs. L'autre boulangerie légendaire est Toko Rotisi de Dedi, située à Bandung, précisément à Rue Otista, Bandung. Cette boulangerie est présente depuis 1954. Ici, les visiteurs peuvent trouver l'un des rares gâteaux typiques de Bandung, à savoir le gâteau du banquet. En outre de l'âge et le menu qui sont assez vieux, les caractéristiques de la boulangerie et le processus de fabrication du pain sont tout à fait différents. Elle utilise encore le charbon de bois comme propulseur du pain. Enfin, il y a une boulangerie légendaire qui peut encore être trouvée dans la capitale Jakarta, à savoir la boulangerie Tan Ek Chuan. Cette boulangerie a commencé sa production depuis 1953. Il y a plusieurs pains qui sont toujours maintenus comme le pain de gamba, le pain de chocolat oles, le pain de nougat et le pain de solo. Les visiteurs peuvent aussi commander le pain de boya ou le pain crocodile, allant de la longueur d'un demi-mètre jusqu'à un mètre. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, visitez la boulangerie Tan Ek Chuan à 61 rue Cikiniraya, Jakarta Central. Chers auditeurs et auditrices, c'était l'Indonésienne couleur de la voix de l'Indonésie.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrières et musique. L'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courrières, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi en même temps présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter un groupe de musique qui s'appelle Noa. Avant d'écouter leurs chansons, je vais saluer d'abord nos auditeurs. Bonsoir, chers Lupna et Idriss Boudina. Comment allez-vous ? Bon week-end à vous et j'apprécie sincèrement que vos réponses soient agréables. Et puis bonsoir, Narmouchi Noiri, à l'Algérie. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Et puis bonsoir, Maurice Mercier, en France. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Et puis, ensuite, on écoutera une chanson intitulée Andai Kan Kau Datang, ou en français Si tu viens, chantée par le groupe de musique Noir.
Thank you.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie dans la rubrique Courrières et Musique. Cette fois, je présente aussi des chansons du groupe de musique noire. Maintenant, je vais saluer nos éditeurs en France. Fabien Serve, Jean-Marie Monplot et Christian Gibaudot. Bonsoir à tous. Et puis toujours en France, passons le bonjour à René Rondin. Meilleures salutations à notre ami Hervé Duval de France. Merci à vous pour le rapport d'écoute. Et puis aussi bonjour pour Léla Oumad. Chers amis, on écoutera la deuxième chanson intitulée Biarkan ku sendiri ou en français Laisse-moi tranquille. Bonne écoute.
Kasihku terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang, biar ku sendiri. Kau berbuat begitu, ku tak sangka malangnya nasibku.
Sendiri, sayang, biar ku sendiri.
Je vous remercie d'être fidèle à la voix de l'Indonésie et voilà, chers amis, c'est la fin de ces courrières. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous. Restez toujours en contact avec nous. Et voici les dernières chansons, Cinta Bukan Dusta et Kupu Kupu Malam, ou en français, L'amour n'est pas de mensonge et Le papillon nocturnel, chanté par Noa. Et bon, bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Sedih dikenangkan
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.